Spinoza, Éthique, livre 5, de la proposition 36 à la fin, fichier 19. Proposition 36. L'amour intellectuel de l'âme envers Dieu est l'amour même duquel Dieu s'aime lui-même, non en tant qu'il est infini, mais en tant qu'il peut s'expliquer par l'essence de l'âme humaine, considérée comme ayant une sorte d'éternité, c'est-à-dire l'amour intellectuel de l'âme envers Dieu est une partie de l'amour infini auquel Dieu s'aime lui-même. Démonstration. Cet amour de l'âme doit se rapporter à des actions de l'âme, corollaire de la proposition 32 et proposition 3, partie 3. Il est donc une action par laquelle l'âme se considère elle-même avec l'accompagnement comme cause de l'idée de Dieu. Proposition 32 est son corollaire, c'est-à-dire corollaire de la proposition 25 partie 1 et corollaire de la proposition 11 partie 2, une action par laquelle Dieu, en tant qu'il peut s'expliquer par l'âme humaine, se considère lui-même avec l'accompagnement de l'idée de lui-même. Et ainsi, proposition précédente, cet amour de l'âme est une partie de l'amour infini dont Dieu s'aime lui-même. CQFD. Corollaire. Il suit de là que Dieu, en tant qu'il s'aime lui-même, aime les hommes, et conséquemment que l'amour de Dieu envers les hommes et l'amour intellectuel de l'âme envers Dieu sont une seule et même chose. Scoli. Nous connaissons clairement par là en quoi notre salut, c'est-à-dire notre béatitude ou notre liberté, consiste. Je veux dire, dans un amour constant et éternel envers Dieu ou dans l'amour de Dieu envers les hommes. Cet amour ou cette béatitude est appelé dans les livres sacrés « gloire », non sans raison. Que cet amour en effet soit rapporté à Dieu ou à l'âme, il peut justement être appelé « contentement intérieur ». Et ce contentement ne se distingue pas de la gloire. Définition 25 et 30 des affections. En tant en effet qu'il se rapporte à Dieu, il est, proposition 35, une joie, s'il est permis d'employer encore ce mot, qu'accompagne l'idée de soi-même, et aussi en tant qu'il se rapporte à l'âme. Proposition 27. De plus, puisque l'essence de notre âme consiste dans la connaissance seule, dont Dieu est le principe et le fondement. Proposition 15, partie 1, et scoli de la proposition 47, partie 2, nous percevons clairement par là comment et en quelles conditions notre âme suit de la nature divine quant à l'essence et quant à l'existence et dépend continuellement de Dieu. J'ai cru qu'il valait la peine de le noter ici pour montrer par cet exemple combien vaut la connaissance des choses singulières que j'ai appelées intuitives ou connaissances du troisième genre. Scoli de la proposition 40, partie 2. Et combien elle l'emporte sur la connaissance par les notions communes que j'ai dit être celle du deuxième genre. Bien que j'ai montré en général dans la première partie que toute chose, et en conséquence l'âme humaine, dépendent de Dieu quant à l'essence et quant à l'existence par cette démonstration, bien qu'elle soit légitime et soustraite au risque du doute, notre âme cependant n'est pas affectée de la même manière que si nous tirons cette conclusion de l'essence même d'une chose quelconque singulière que nous disons dépendre de Dieu. Proposition 37. Il n'est rien donné dans la nature qui soit contraire à cet amour intellectuel, c'est-à-dire le puisse ôter. Démonstration. Cet amour intellectuel suit nécessairement de la nature de l'âme en tant qu'on la considère elle-même par la nature de Dieu comme une vérité éternelle. propositions 33 et 29. Si donc quelque chose était donné qui fût contraire à cet amour, ce quelque chose serait contraire au vrai. Et en conséquence, ce qui pourrait ôter cet amour ferait que ce qui est vrai se trouve à faux. Or cela, comme il est connu de soi, est absurde. Donc, il n'est rien donné dans la nature, etc. CQFD. Scoli. L'axiome de la quatrième partie concerne les choses singulières considérées avec une relation à un temps et à un lieu déterminé. Je pense que personne n'a de doute à ce sujet. Proposition 38. Plus l'âme connaît de choses par le deuxième et le troisième genre de connaissances, moins elle pâtit des affections qui sont mauvaises et moins elle craint la mort. Démonstration. L'essence de l'âme consiste dans la connaissance. Proposition 11, partie 2. À mesure donc que l'âme connaît plus de choses par le deuxième et le troisième genre de connaissances, une plus grande partie d'elle-même demeure. Proposition 29 et 23. Et en conséquence, proposition précédente, une plus grande partie d'elle-même n'est pas atteinte par les affections qui sont contraires à notre nature. Proposition 30, partie 4, c'est-à-dire mauvaise. Plus donc l'âme connaît de choses par le deuxième et troisième genre de connaissances, plus grande est la partie d'elle-même qui demeure indemne, et conséquemment, moins elle pâtit des affections, etc. CQFD. Nous connaissons par là le point que j'ai touché dans le scoli de la proposition 39, partie 4, et que j'ai promis d'expliquer dans cette cinquième partie. Je veux dire que la mort est d'autant moins nuisible qu'il y a dans l'âme plus de connaissances claires et distinctes, et conséquemment d'amour de Dieu. De plus, puisque, proposition 27, du troisième genre de connaissances, naît le contentement le plus élevé qu'il puisse y avoir, l'âme humaine peut être, suit-il de là, d'une nature telle que la partie d'elle-même périssant, comme nous l'avons montré, proposition 21, avec le corps, soit insignifiante relativement à celle qui demeure. Mais nous reviendrons bientôt plus amplement là-dessus. Proposition 39. Qui a un corps possédant un très grand nombre d'aptitudes? La plus grande partie de son âme est éternelle. Démonstration. Qui a un corps apte à faire un très grand nombre de choses? Il est très peu dominé par les affections qui sont mauvaises. Proposition 38, partie 4. C'est-à-dire par les affections. Proposition 30, partie 4. Qui sont contraires à notre nature. Et ainsi, proposition 10, il a le pouvoir d'ordonner et d'enchaîner les affections du corps suivant un ordre valable pour l'entendement et conséquemment de faire, proposition 14, que toutes les affections du corps se rapportent à l'idée de Dieu. Par où il arrivera, proposition 15, qu'il soit affecté envers Dieu de l'amour qui, proposition 16, doit occuper ou constituer la plus grande partie de l'âme. Et par suite, il a une âme, proposition 33, dont la plus grande partie est éternelle. C'est QFD. Scoli. Les corps humains ayant un très grand nombre d'aptitudes, ils peuvent, cela n'est pas douteux, être d'une nature telle qu'ils se rapportent à des âmes ayant d'elles-mêmes et de Dieu une grande connaissance et dont la plus grande partie ou la principale partie est éternelle, et telle qu'elles ne craignent guère la mort. Mais pour connaître cela plus clairement, il faut considérer ici que nous vivons dans un changement continuel et qu'on nous dit heureux ou malheureux suivant que nous changeons en mieux ou en pire. Qui, d'enfant ou de jeune garçon, passe à l'état de cadavre et dit malheureux? Et au contraire, on tient pour bonheur d'avoir pu parcourir l'espace entier de la vie avec une âme saine dans un corps sain. Et réellement, qui, comme un enfant ou un jeune garçon, a un corps possédant un très petit nombre d'aptitudes et dépendant au plus haut point des causes extérieures, a une âme qui, considérée en elle seule, n'a presque aucune conscience d'elle-même, ni de Dieu, ni des choses. Et au contraire, qui a un corps aux très nombreuses aptitudes, a une âme qui, considérée en elle seule, a grandement conscience d'elle-même et de Dieu, et des choses. Dans cette vie, donc, nous faisons effort avant tout pour que le corps de l'enfance se change, autant que sa nature le souffre, et qui lui convient en un autre, ayant un très grand nombre d'aptitudes et se rapportant à une âme consciente au plus haut point d'elle-même et de Dieu et des choses, et telle que tout ce qui se rapporte à sa mémoire ou à son imagination soit presque insignifiant relativement à l'entendement, comme je l'ai dit dans le scolier de la proposition précédente. Proposition 40. Plus chaque chose a de perfection, plus elle est active et moins elle est passive. Et inversement, plus elle est active, plus parfaite elle est. Démonstration. Plus chaque partie est parfaite, plus elle a de réalité. Définition 6, partie 2. Et en conséquence, proposition 3, partie 3, avec son scolie, plus elle est active et moins elle est passive. La démonstration se fait de la même manière dans l'ordre inverse, d'où suit que, inversement, une chose est d'autant plus parfaite qu'elle est plus active. C'est QFD. Corollaire. Il suit de là que la partie de l'âme qui demeure, quelque petite ou grande qu'elle soit, est plus parfaite que l'autre. Car la partie éternelle de l'âme, propositions 23 et 29, est l'entendement, seule partie pour laquelle nous soyons dits actifs, proposition 3, partie 3. Cette partie, au contraire, que nous avons montré qui périt, est l'imagination elle-même, proposition 21, seule partie par laquelle nous soyons dits passifs, proposition 3, partie 3, et définition générale des affections. Et ainsi, la première, petite ou grande, est plus parfaite que la deuxième. C'est QFD. Scolie. Voilà ce que je m'étais proposé de montrer au sujet de l'âme en tant qu'elle est considérée en dehors de sa relation à l'existence du corps. Par là, et en même temps par la proposition 21 partie 1 et d'autres encore, il apparaît que notre âme, en tant qu'elle connaît et est un mode éternel du penser qui est déterminé par un autre mode éternel du penser, ce dernier à son tour par un autre mode et ainsi à l'infini, de façon que toutes ensemble constituent l'entendement éternel et infini de Dieu. Proposition 41. Quand même nous ne saurions pas que notre âme est éternelle. La moralité et la religion, et absolument parlant, tout ce que nous avons montré dans la quatrième partie qui se rapporte à la fermeté d'âme et à la générosité, ne laisserait pas d'être pour nous la première des choses. Démonstration. Le premier et le seul principe de la vertu ou de la conduite droite de la vie est, corollaire de la proposition 22 et proposition 24, partie 4, la recherche de ce qui nous est utile. Or, pour déterminer ce que la raison commande comme utile, nous n'avons eu nul égard à l'éternité de l'âme, connue seulement dans cette cinquième partie. Bien que nous ayons, à ce moment, ignoré que l'âme est éternelle, ce que nous avons montré qui se rapporte à la fermeté d'âme et à la générosité n'a pas laissé d'être pour nous la première des choses. Par suite, quand bien même nous l'ignorerions encore, nous tiendrions ces prescriptions de la raison pour la première des choses. CQFD. Scoli. La persuasion commune du vulgaire semble être différente. La plupart, en effet, semblent croire qu'ils sont libres dans la mesure où il leur est permis d'obéir à l'appétit sensuel et qu'ils renoncent à leurs droits dans la mesure où ils sont astreints à vivre suivant les prescriptions de la loi divine. La moralité, donc, et la religion, et absolument parlant tout ce qui se rapporte à la force d'âme, ils croient que ce sont des fardeaux dont ils espèrent être déchargés après la mort pour recevoir le prix de la servitude, c'est-à-dire de la moralité et de la religion. Et ce n'est pas seulement cet espoir, c'est aussi et principalement la crainte d'être punis d'affreux supplices après la mort qui les induit à vivre suivant les prescriptions de la loi divine, autant que leur petitesse et leur impuissance intérieure le permettent. Et si les hommes n'avaient pas cet espoir et cette crainte, s'ils croyaient au contraire que les âmes périssent avec le corps, et que les malheureux, épuisés par le fardeau de la moralité, n'ont devant eux aucune vie à venir, ils reviendraient à leur complexion et voudraient tout gouverner suivant leur appétit sensuel et obéir à la fortune plutôt qu'à eux-mêmes. Ce qui ne me paraît pas moins absurde que si quelqu'un, parce qu'il ne croit pas pouvoir nourrir son corps de bons aliments dans l'éternité, aimait mieux se saturer de poisons et de substances mortifères. Ou parce qu'on croit que l'âme n'est pas éternelle ou immortelle, on aimait mieux être dément et vivre sans raison. Absurdité telle qu'elle mérite à peine d'être relevée. Proposition 42. La béatitude n'est pas le prix de la vertu, mais la vertu elle-même. Et cet épanouissement n'est pas tenu par la réduction de nos appétits sensuels, mais c'est au contraire cet épanouissement qui rend possible la réduction de nos appétits sensuels. Démonstration. La béatitude consiste dans l'amour envers Dieu, proposition 36 avec son scoli. Et cet amour naît lui-même du troisième genre de connaissance, corollaire de la proposition 32. Ainsi, cet amour doit être rapporté à l'âme en tant qu'elle est active, et par suite, définition 8, partie 4, il est la vertu même. En outre, plus l'âme s'épanouit en cet amour divin ou cette béatitude, plus elle est connaissante, proposition 32, c'est-à-dire, corollaire proposition 3, plus grand est son pouvoir sur les affections et moins elle pâtit des affections qui sont mauvaises, proposition 38. Par suite, donc, de ce que l'âme s'épanouit en amour divin ou béatitude, elle a le pouvoir de réduire les appétits sensuels. Et, puisque la puissance de l'homme pour réduire les affections consiste dans l'entendement seul, nul n'obtient cet épanouissement de la béatitude par la réduction de ses appétits sensuels, mais au contraire, le pouvoir de les réduire naît de la béatitude elle-même. Scoli. J'ai achevé ici ce que je voulais établir concernant la puissance de l'âme sur ses affections et la liberté de l'âme. Il apparaît par là combien vaut le sage et combien il l'emporte en pouvoir sur l'ignorant, conduit par le seul appétit sensuel. L'ignorant, autre qu'il est de beaucoup de manières ballotté par les causes extérieures et ne possède jamais le vrai contentement intérieur, est dans une inconscience presque complète de lui-même, de Dieu et des choses. Et, sitôt qu'il cesse de pâtir, il cesse d'être. Le sage, au contraire, considéré en cette qualité, ne connaît guère le trouble intérieur, mais, ayant par une certaine nécessité éternelle conscience de lui-même, de Dieu et des choses, ne cesse jamais d'être, et possède le vrai contentement. si la voie que j'ai montrée qui y conduit paraît être extrêmement ardue, encore y peut-on entrer. Et cela, certes, doit être ardu qui est trouvé si rarement. Comment serait-il possible, si le salut était sous la main, et si l'on y pouvait parvenir sans grande peine, qu'il fût négligé par presque tous? Mais tout ce qui est beau est difficile autant que rare.